Radio Estable.
Una dirección from
NPR News.
Radio Rosanna,
lo que se reproduce en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, je vous emmène en Tunisie suivre une femme dans l'un des centres d'aide créés après une loi toute neuve mais qui peine à être appliquée. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu au Brésil, en Italie, avec les manchots sur la banquise, le monde à l'envers et Cyril Sauvageau qui nous emmène ce soir au Japon qui change d'air. Pas de monde selon Trump ce soir depuis Washington et pour cause. Washington vient à nous, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Bonsoir Gérard Araud.
Bonsoir.
Merci de passer du temps avec nous. Cela dit, vous en avez de plus en plus du temps désormais qu'on doit vous appeler ex-ambassadeur. Est-ce que vous gardez votre titre d'ailleurs, par curiosité, non ?
Oui, théoriquement, on m'appelle ambassadeur parce que j'ai le grade d'ambassadeur de France et donc je le suis à vie, mais vous pouvez m'appeler Gérard.
Très bien, on va faire ça comme ça. 37 ans donc au Quai d'Orsay, vous avez décidé de tourner une page. Je lisais avec intérêt, vous l'avez sûrement lu aussi d'ailleurs, Maureen Downe qui est l'une des éditorialistes les plus connus du New York Times, qui vous a consacré un long papier là tout récemment, et qui dit il manquera à Washington, mais Washington ne lui manquera pas. C'est vrai que ça vous manquera pas, Washington? Au fond, vous avez le sentiment quoi? Vous avez fait le tour, c'est ça?
Oui, un petit peu. C'est en partie une plaisanterie. Washington, c'est quand même une ville assez provinciale. Et surtout, lorsque vous êtes un ambassadeur, ce n'est ni la capitale économique, ni la capitale financière, ni la capitale culturelle. C'est un peu un bocal hein, où tout le monde pense, rêve, dort, couche politique. Et donc, il faut sortir de cette ville qui est quand même assez obsédante. Alors, en plus, obsédante à cause, évidemment, de l'élection de Donald Trump, parce que depuis l'élection de Donald Trump, le tout Washington, aussi bien républicain que démocrate, est entré dans une crise d'hystérie. On ne parle plus que du dernier tweet de Donald Trump. Alors, au début, c'était amusant. À la fin, c'est assez lassant. Et surtout, on a l'impression que c'est quand même raté l'essentiel.
Et donc, tout ça n'a aucun sens, en fait, selon vous. On a perdu le sens un peu. Parce qu'effectivement, regardez, cet après-midi, je crois, le Washington Post annonce le 10 000e mensonge de Donald Trump. Est-ce qu'on se trompe? Y compris dans ce Washington dont vous parlez, dans cette bulle-là. On va rappeler quand même, c'était quoi le score? 95-96% pour Hillary Clinton, je crois. Donc, est-ce qu'on le voit pas, en fait, dans cette ville-là, le fameux Trump?
Mais exactement. D'abord, Manhattan, comme le district de Columbia, ont voté à 94% pour Trump. Mais surtout, j'ai l'habitude de répéter le proverbe chinois, lorsque le doigt montre la lune, le fou regarde le doigt et le sage regarde la lune. D'une certaine manière, Trump, c'est le doigt, c'est-à-dire c'est le symptôme de la crise, ce n'est pas la crise. Et je trouve qu'un grand nombre d'observateurs, d'experts, et même de démocrates d'ailleurs, perdent un peu leur temps à dénombrer les supposés mensonges de Donald Trump. Ils devraient beaucoup plus se demander pourquoi il a été élu. Et s'il a été élu, c'est pas à cause des Russes, c'est pas seulement parce que Hillary Clinton était une mauvaise candidate, c'est parce qu'il y a une crise politique et le génie de Trump...
Oui, vous dites le génie même, j'ai lu ça dans une interview, le génie de Trump, c'est d'avoir vu la crise avant les autres, d'avoir vu en tout cas ce que la crise donnerait avant les autres. C'est vraiment lui qui a eu ça.
Rappelez-vous, été 2015, vous avez une économie qui est en croissance depuis 7 ans, vous avez un chômage qui est à 5%, tout le monde pense que, de toute façon, ça va être Hillary Clinton qui sera réélu. Mm-hmm. Mais même les spécialistes républicains. Le jour même de l'élection, le 8 novembre, à 6h du soir, j'appelle les équipes et les sondeurs. Tous me disent, évidemment, elle est élue. Donc, il a été une surprise totale, mais il a aussi mené une campagne totalement inhabituelle, parce que, de nouveau, il a senti quelque chose, et il est allé jusqu'au bout, et il a gagné.
Et c'est le sens de ce que vous tweetiez à l'époque. On va pas rester longtemps dessus, parce qu'on vous l'a déjà beaucoup dit, mais le monde qui s'effondre devant nos yeux, disiez-vous. Ouais. Un tweet qui a duré quelques minutes seulement, mais qui a fait beaucoup parler. Qu'est-ce qui s'effondre à ce moment-là? C'est quel monde? Au fond, on a l'impression que c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est le monde de la bulle de Washington qui s'effondre là.
Exactement. C'était un tweet assez malheureux. Non pas sur le fond, j'avais raison, mais enfin sur le moment. En plus, comme c'était 2h du matin, ça faisait 8h du matin à Paris et tout le monde l'a repris. Oui, c'est au fond le monde de nos certitudes, c'est le monde des démocraties libérales telles qu'elles ont fonctionné jusqu'aujourd'hui. Et après Trump, il y a eu les élections en Italie et vous avez partout la montée, la rébellion des citoyens. Parce que les gens parlent des gilets jaunes, mais les gilets jaunes c'est plus ou moins les électeurs de Trump, n'est-ce pas? C'est cette partie de l'électorat, de nos concitoyens qui nous disent assez, c'est assez.
Alors cependant, quand vous partez partez, vous dites nous avons affaire à un vieux roi un peu capricieux, imprévisible, désinformé, mais qui veut être celui qui décide de tout. Au fond, donc, d'un côté, vous dites oui, on l'a pas vu venir, donc tant pis pour nous, au fond, et lui a eu le génie, comme vous dites. Et en même temps, vous continuez à juger extrêmement sévèrement ce président.
C'est-à-dire sévèrement en tant que fonctionnaire classique. Parce que je pense que tout dirigeant populiste, lorsqu'il prend le pouvoir, doit casser la baraque. Parce que lorsqu'il arrive, s'il commence à respecter les procédures habituelles, s'il commence à faire des réunions avec les hauts fonctionnaires, qu'ils soient démocrates ou républicains, ceux-ci vont lui proposer finalement des solutions traditionnelles. Il a été élu pour mener une politique différente. Un populiste de gauche ou de droite, c'est pas un homme de gauche comme les autres ou un homme de droite comme les autres, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, c'est quelqu'un de différent.
Donc il a raison, y compris dans son attitude, y compris dans sa manière de tweeter, de passer par-dessus les journalistes, d'être excessif en tout, il a raison de jouer cette carte-là, selon vous.
Ah ben, tout à fait, dans la mesure où, enfin, le mot avoir raison, on n'est peut-être pas... Mais, par exemple, le New York Times et le Washington Post ont en réalité, sont en campagne permanente contre Trump. Et Trump le sait. Et donc, pour parler à ses électeurs, il passe par-dessus la tête de la presse, il utilise le Twitter.
Et est-ce que c'est aussi parce que vous voulez aussi, vous, être respecté de lui, que vous êtes sur le même ton, aussi, d'une certaine façon, quand vous tweetez, vous, quand vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, est-ce que c'est aussi une manière de lui parler directement, finalement, à ce Trump?
Non, c'est un sujet différent. C'est le sujet... d'abord, j'étais ambassadeur aux États-Unis, si j'avais été en Chine ou en Russie, je n'aurais pas tweeté.
C'était le sens de ma question. On tweet à l'image du président du pays dans lequel on est,
Ce qui me concerne, à l'image du pays. C'est-à-dire, vous savez, lorsque vous arrivez ambassadeur dans un pays de 320 millions d'habitants, vous vous dites alors, comment est-ce que je peux faire la différence? Vous pouvez continuer à être l'ambassadeur tel qu'on l'a été pendant un siècle ou des siècles, vous pouvez travailler 14 heures par jour, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment la différence. Donc j'ai essayé de jouer sur Twitter, j'ai commis des erreurs, mais j'ai voulu essayer d'expérimenter une nouvelle manière d'être ambassadeur. Alors, certains me l'ont reproché, mais d'autres m'en ont félicité.
Mais est-ce que c'est aussi pour ça que vous partez, au fond?
Ah non, ça, je pars hélas à cause de l'âge de la retraite. Vous ne me donnez pas mon âge, mais j'ai 66 ans, et c'est la guillotine administrative qui m'envoie à la retraite.
Être ambassadeur de France sous Trump, est-ce que c'est une punition ou finalement comme vous avez l'air de le dire, c'est plus intéressant qu'avec un autre, parce que c'est moins carré, c'est moins lisible, et que ça permet de colorier en dehors des lignes.
Non, mais pour moi, c'est évidemment passionnant, parce que depuis le début, la grande différence que j'avais envers mes amis américains, c'est que d'abord, mes tripes n'étaient pas engagées, n'est-ce pas? J'avais pas. Et deuxièmement, je pouvais faire des comparaisons avec le reste du monde. Et pour moi, c'était un test en vraie grandeur. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un populiste prend le pouvoir d'une démocratie libérale? Et donc, j'ai vu par exemple la manière dont il a modifié la droite américaine. La droite américaine, elle est trumpisée. Et c'est intéressant parce que cette nouvelle droite, c'est un peu aussi la droite telle que l'a redéfinie Laurent Wauquiez en France. Vous avez, à travers le monde occidental, un nouveau conservatisme qui est en train de se définir.
Et une gauche qui cherche, on y viendra dans un instant, je voudrais d'abord revenir quand même un peu sur ce que vous avez vécu. Vous avez été, par exemple, avant l'un des négociateurs de l'accord iranien. Au moment où cet accord est en train de tomber, qu'est-ce qui se passe, vous, dans votre tête d'ambassadeur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décrochez constamment le téléphone? Est-ce que vous essayez d'infléchir la politique de Trump, la réaction de Trump? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait?
Dans une administration normale, je ferai ce que vous dites. Je prendrai le téléphone, j'irai voir les responsables américains. Mais dans l'administration de Trump, il n'y a qu'une personne qui décide. C'est Donald Trump. Même son entourage immédiat ne sait pas souvent ce qu'il va décider le lendemain. Et donc, dans ce cas-là, et c'est pour ça que la relation personnelle qu'a créée Emmanuel Macron avec Donald Trump est utile. Donc là, c'est Emmanuel Macron qui a essayé de convaincre Trump.
Sauf que c'est raté.
Mais il s'est heurté au mur de Donald Trump. Donald Trump met en œuvre l'une après l'autre, toutes les annonces de sa campagne électorale.
Mais ça veut dire que vous, ambassadeur de France, quand vous avez, j'imagine, Emmanuel Macron qui vous appelle en disant, vois un peu comment c'est en train de circuler, sur qui on peut peser, etc. Vous répondez quoi? Genre, on ne peut pas peser parce qu'on ne sait pas où il va? C'est la seule réponse que vous pouvez avoir,
hélas? Parfois, d'abord, il faut essayer de deviner, je commence à peu près à savoir dans quelle direction probablement va aller Donald Trump, mais il faut se dire, vous savez que quand un président américain arrive, 700 hauts fonctionnaires doivent être nommés, confirmés confirmé par le Sénat. Donc ça prend du temps.
Et là, mais il en manque toujours
deux
plein,
ans. Il y en a plein encore. Il y a plein de bureaux qui sont vides. Et même les gens qui sont dans les bureaux, très souvent, ils ne savent pas ce que le président va dire le lendemain ou ce que signifie ce que le président a dit la veille. Donc c'est une s'il faut bien dire, c'est un système dysfonctionnel au sens traditionnel du terme. C'est la manière dont le populisme au gouvernement fonctionne, et c'est la raison pour laquelle, de nouveau, très souvent, j'ai répondu à Paris, eh bien, que le président de la République appelle Donald Trump, c'est la seule manière de savoir.
Quel rapport vous aviez, justement, quel rapport vous entretenez avec un Joel Bolton, donc le responsable de sécurité intérieure, avec un Mike Pompeo, secrétaire of State. Quel rapport vous avez avec eux?
Bah d'abord, John Bolton, moi je le connais depuis 30 ans, hein, c'est un vrai professionnel qui connaît vraiment bien les sujets, il n'a jamais été facile parce que fondamentalement, il considère qu'il n'y a qu'un texte sacré, c'est la Constitution des États-Unis.
L'Iran, c'est lui, par exemple. L'Iran, la Syrie, c'est lui. Tout ça, c'est lui.
Aucun traité. Ah non, peut-être pas la Syrie, parce que justement, sur la Syrie, si vous me permettez de rebondir là-dessus, il y a une caractéristique qu'a Donald Trump et qu'en a certainement pas Bolton. Donald Trump ne veut pas faire la guerre. Donald Trump est un isolationniste. Il considère, et un peu comme Obama avant lui, qu'il y a eu trop d'aventures militaires américaines. Vous savez, la politique de Trump
L'Amérique
en Ukraine,
plus
en Syrie,
du monde, c'est Obama qui a commencé, effectivement.
Exactement. Et de nouveau, en Syrie ou en Ukraine, c'est plus ou moins les mêmes politiques. Alors que John Bolton, lui, au contraire, il n'y a pas de crise qui ne peut être résolue par un bon bombardement. Ce n'est pas du tout la ligne de Donald Trump.
Alors, ce que Trump a fait, d'ailleurs, précédemment, mais un bombardement et puis plus rien, d'ailleurs, il y a
deux ans, sur la Syrie, après une nouvelle
ligne rouge qui avait été franchie. Et, mais alors, du coup, vos relations avec un Bolton ou avec un Mike Pompeo, est-ce que vous leur parlez quotidiennement quand même à ces gens-là ou pas?
Pas quotidiennement, mais on leur parle, naturellement. Mais il faut se dire que après le départ du premier secrétaire d'État Tillerson, le départ de deux conseillers nationaux de sécurité, très clairement, il n'y a qu'une personne en charge, c'est Donald Trump. Et donc, les gens autour de lui, pour exister, doivent s'aligner sur le président. Il n'y a pas d'autonomie du secrétaire d'État, il n'y a pas d'autonomie du conseiller national de sécurité. Donc, vous adressez à eux, ils peuvent vous répondre s'ils savent ce que le président va dire le lendemain.
Et est-ce qu'il est vraiment facile d'accès? C'est-à-dire le jour où Emmanuel Macron ou un autre, d'ailleurs, ou Merkel ou quelqu'un d'autre, décide que bon, il faut appeler le président parce qu'on a ça à lui dire, c'est facile ou pas?
Il donne son portable à tout le monde, il passe son temps au téléphone et devant la télévision. Donc oui,
vous l'avez là ou pas?
Il est accessible.
On appellerait bien Donald Trump dans Un jour dans le monde. Il y en a un autre personnage, moi, qui m'intéresse et qui me fascine un peu, c'est Jared Kushner, le beau-fils, en fait. Celui qui est en charge d'un accord israélo-palestinien, en tout cas c'est de ça dont il a été chargé. Vous dites qu'il est très intelligent mais sans estomac. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il
sans
manque?
Sans tripes plutôt.
Ouais, sans tripes.
C'est-à-dire c'est un rationnel pur. Un rationnel pur, assez froid. Vous savez, il vient du milieu de l'immobilier new-yorkais, où on n'est pas tellement sentimental.
Comme son beau-père.
Donc moi je considère que il comprend le conflit du Moyen-Orient, il en voit bien les grandes lignes, mais il n'est pas capable de sentir que l'irrationalité y joue un rôle. Il joue un grand rôle. Et donc je crains que lorsqu'il présentera son plan, il sera surpris aussi par des éléments qui ne sont pas des éléments d'intérêt, purement d'intérêt. En gros, il veut acheter ou les deux côtés en jouant uniquement sur l'intérêt des deux côtés. Il veut ignorer les aspects symboliques et émotionnels.
Mais là aussi, c'est un terrain que vous connaissez très bien puisque vous y avez travaillé. Il y a une chance pour que ça marche, ce plan. On a l'impression qu'on est juste dans quelque chose qui ressemble, qui dit Trump disant à Netanyahu, attends, je t'ai donné la capitale, je t'ai donné des accords sur un certain nombre de choses, donc en échange de quoi tu vas faire un effort? J'ai l'impression qu'on en est un peu là, est-ce que je me trompe?
Pas du tout, la vision de Donald Trump de la politique est purement transactionnelle et elle s'applique à tout le monde également, et il l'a dit publiquement, il s'attend, lorsque le plan de paix sera présenté, il s'attend à ce que, d'une certaine manière... Netanyahou le paye de retour.
C'est marrant parce que vous avez eu cette phrase à un moment où vous avez dit que au fond Obama comme Macron d'ailleurs, les deux sont le même personnage dans leur très grande différence avec Trump, trop élégant pour parler au peuple au fond, mais lui avec sa rustrerie, lui il sait faire ça très très bien, et peut-être que pour ces raisons-là il arrivera à des résultats qui seront peut-être meilleurs avec toute cette population-là que son prédécesseur et que notre président.
Ah mais c'est en effet une réalité. Vous savez, aujourd'hui l'électorat américain est exactement au même point qu'en 2016. Mmh. Lorsqu'il fait il est toujours en campagne, ouais. Hein, donc il fait très souvent des meetings populaires, et il faut voir les meetings populaires, l'enthousiasme qu'il suscite.
Sa plus grande réussite, du coup, c'est quoi, selon vous ?
La plus grande réussite, bah, de son point de vue, puisqu'il est obsédé par le commerce, ce sont la renégociation des accords commerciaux avec le Mexique et avec le Canada. En ce qui concerne la Chine est dans les cordes. Hein, la Chine a été totalement prise par surprise et la négociation se poursuit. Et s'il obtient un accord avec la Chine, ce sera là aussi un grand succès.
Est-ce qu'il ne fait pas avec la Chine ce que d'autres ont essayé de faire, mais on n'a jamais osé appuyer sur le bouton ? On a tous des souvenirs de Barack Obama disant « il triche, c'est mal, mais sans jamais mais agir réellement. Est-ce que là-dessus, il a plus d'estomac, de tripes, comme vous disiez, qu'un autre avant lui ?
Ah, tout à fait. Ce qui est frappant à Washington à l'heure actuelle, c'est que vous interrogez les démocrates ou les autres, personne ne lui donne tort dans le bras de fer qu'il a engagé avec la Chine. Et ce bras de fer, en plus, c'est un bras de fer global, c'est une confrontation. C'est pas seulement le commerce, c'est aussi sur le reste. Oui, tout le monde le dit, il a eu raison, il aurait fallu le faire plus tôt.
Donc la grande réussite, en tout cas jusque-là, vous diriez que c'est ça, c'est quoi la plus grosse bourde en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il est complètement à côté de la plaque ?
Bon, la question, évidemment, maintenant, c'est la question iranienne. Nous sommes dans une sorte d'impasse, il est en train d'accumuler les sanctions sur l'Iran, mais en même temps, il n'y a aucune ingénierie diplomatique, il n'y a aucune proposition de négociation, et donc on a une montée de tension où de plus en plus la paix est à la merci d'un incident. Et donc ça, c'est un peu inquiétant. Parfois, on entend dans certains couloirs à Washington, pas de Trump lui-même, mais à certains couloirs à Washington, des bruits qu'on avait entendus en 2003 contre l'Irak.
Est-ce qu'il s'est fait rouler dans la farine par Kim Jong-un, par exemple, selon vous ?
Pour le moment, rien ne s'est vraiment passé. Donc, il n'est pas encore roulé dans la farine. Alors, soyons clairs, tous les présidents précédents ont échoué avec Kim Jong-un. Il a essayé une approche totalement différente. Laissons-lui le temps et voyons s'il échoue ou s'il n'échoue pas.
Gérard Araud, vous disiez tout à l'heure que le Trump avait réussi à trumpiser effectivement le parti républicain. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment sont en train de partir les démocrates aujourd'hui dans tous les sens. Il y a combien de gauches aux États-Unis ? Est-ce qu'on appelle ça la gauche ? Est-ce qu'il est en train de sortir de Trump une vraie gauche américaine ? Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, selon vous ?
Alors, d'un côté, moi je suis convaincu qu'on change d'air. Hein, et donc à droite, ça y est, c'est un nouveau conservatisme. Et la question, évidemment, est de savoir quelle sera la gauche américaine. Et donc, il y a des tensions très importantes au sein du Parti démocrate, parce que la direction du Parti démocrate, elle reste sur une ligne clintonienne, c'est-à-dire une ligne centriste, et il y a, à l'évidence, parmi les militants et chez les jeunes, il y a une véritable dynamique de gauche. Vous voyez, par exemple, ce sondage ahurissant, la majorité des jeunes américains de 18 à 35 ans me donne une vision positive au mot socialisme. Aux États-Unis, c'est comme mot communisme.
Bien sûr,
voyez,
oui,
donc il y a une dynamique, il y a des thèmes qu'il y a 2-3 ans, personne n'aurait repris, comme une tranche d'impôt sur le revenu à 70%, un impôt sur les grandes fortunes, qui deviennent d'un seul coup une partie du débat national. Alors, à l'évidence, le Parti démocrate va aller à gauche comme la droite est allée à droite. Évidemment, s'il va trop à gauche, Trump est réélu. Et donc, en ce moment, le bras de fer auquel nous assistons, c'est justement pour savoir où le curseur va s'arrêter dans la gauche américaine.
Mais est-ce qu'il y a des candidats, vous ne laissez pas avoir par le côté médiatique comme nous, on peut se laisser avoir quand c'est joli et que ça fait beaucoup de bruit médiatique et que ça tweet, donc un Pete Buttigieg par exemple, est-ce que ça a vraiment du sens réellement ? Un Beto O'Rourke aussi, est-ce que ça a vraiment du sens ?
Ce qu'on appelle, comme son nom est difficile à prononcer, tout le monde l'appelle aux États-Unis Mayor Pete. Moi je l'ai rencontré, l'homme est remarquablement intelligent, brillantissime, mais honnêtement quelqu'un qui considère que Ulysse de Joyce est le plus beau roman du monde, à mon avis ne peut pas être élu dans aucun pays du monde. Non mais surtout, plus sérieusement, soyons clairs, un gay marié à un homme, il y a un moment, même du côté démocrate, les plus de 65 ans, n'oublions pas que les États-Unis sont un pays extraordinairement religieux.
C'est vrai.
Donc, Washington
entier...
C'est vrai,
mais en même temps, Monsieur Araud, vous savez, vous vous souvenez, un noir qui s'appelle Barack Obama, ça ne va pas être possible.
Barack Hussein Obama.
Donc, voilà. En même temps...
Pourquoi pas? Moi, je.
On va enregistrer ce passage. Il est 18h36. Hein, allez-y. Donc vous n'y croyez pas?
J'y crois pas, mais le tout Washington est enthousiaste. Mmh. Mais de nouveau, là maintenant, tous les deux mois, vous allez avoir un nouvel enthousiasme. Beto est un peu retombé. Maintenant, c'est Mayor Pete. Mmh. Donc le problème, c'est que vous avez déjà 20 candidats démocrates sur la scène. Ça va être un tirage au sort. Mmh. Alors il y en a un qui va d'ailleurs être, il faut bien dire, une épine au pied des démocrates. C'est évidemment Sanders, mmh. qui arrive avec sa machine. Il est bon, il a de l'argent à coût de $50 de, mmh. de voilà. Donc il va falloir qu'il trouve un candidat qui puisse battre Sanders et Trump. Et de nouveau, ça ne va pas être facile. Donc tout est à peu près possible. Alors Biden, moi j'y crois pas trop parce que
Sleepy
ce
Joe,
pays demande renouvellement. Mmh. Voilà, c'est un pays en quête de renouvellement. Mmh. Vous avez Kamala Harris qui est bonne. Hein. Mmh. C'est une femme noire de Californie, mais elle est plutôt centriste. Mmh. Et elle est remarquablement intelligente. Mais de nouveau, avec 20 candidats, impossible de faire la moindre prédiction.
Allez, Gérard, vous partez, vous allez vous installer à New York, vous allez travailler, j'allais dire, en simple citoyen, même si on pourra continuer à vous appeler monsieur l'ambassadeur. Donc, qu'est-ce que vous dites à votre successeur? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Le mot de passage de témoin, c'est quoi?
Bah, de nouveau, Washington, ce n'est ni la capitale culturelle, ni économique, ni financière du pays. C'est une vie qui parle, qui couche, qui rêve politique, qui est un peu hystérique depuis l'élection de Donald Trump. Mmh. Donc il faut en sortir, hein, il faut en sortir. Les Américains en plus sont extrêmement chaleureux, accueillants, gentils, et c'est toujours passionnant parce que vu de Paris, vu de France, on ne s'en rend pas compte, mais toutes les villes américaines sont différentes et ont quelque chose de différent à nous apporter.
Ça va vous manquer un peu tout ça? Ou pas, d'être sous la table pendant ces discussions extrêmement sérieuses?
Non, vraiment, il y a une chose que je ne peux plus, supporter, c'était, il faut bien dire, les mondanités.
Très bien.
Et donc là, vraiment, les dîners, les cocktails, les déjeuners, les petits déjeuners, vraiment, c'est...
Il paraît que les fêtes chez vous étaient réputées à la résidence, j'espère que vous continuerez à faire des fêtes
à New York. Le problème, le fardeau de l'ambassadeur de France, c'est qu'il est supposé offrir du bon vin et de bons repas, et donc voilà, j'assumais pleinement cela, mais c'est dur, hein. C'est dur, les gilets jaunes vont m'appeler. Mais honnêtement, j'en pouvais plus.
Eh ben, écoutez, bon vent. Alors, bon vent et merci beaucoup, monsieur Haro. Merci vraiment
pour
votre passage dans la journée de vendre.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe en Tunisie, dans un centre pour femmes que vous allez visiter avec nous, sous les radars, et Amélie Perry avec Bolsonaro, qui entend couper les vivres des études inutiles, tiens, notamment, fermer les guillemets, un couple vedette aussi du côté de l'Italie, et puis des empereurs malheureux, le monde à l'envers, et Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Le Japon, ce soir, qui vient moment historique, alors.
Avec un changement d'empereur, mais pas de révolution, on verra que rien ne change jamais vraiment au pays de la plus vieille maison impériale du monde.
Allez, à tout à l'heure, on fait une pause qui nous fait voyager. Tiens, dans la playlist de France Inter, voici Fontaine d'ici, Boys in the Better Land.
You're not a loyal boy, so you start kicking when the room is spinning and the words are ticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hand like a James Joyce novel. Saying sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Names to fill two double barrels. He spits out, breaks out, only smokes carols.
your spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist. So take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here.
Yeah. Allez, Fontaine d'ici, Boys in the Betterland, et c'est sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Ярослав Капьон.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier est sous les radars. Comme tous les jours, Amélie, la révolution culturelle est en marche au Brésil.
Oui, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, dessine de nouvelles priorités dans le monde universitaire. Il vient d'annoncer qu'il allait diminuer les fonds publics pour les facs de philo et de sociaux. L'objectif, dit Bolsonaro, est de se concentrer sur les filières qui génèrent un retour immédiat aux contribuables, comme les études vétérinaires, d'ingénieurs ou de médecine. Les réseaux sociaux se sont emballés tout de suite, annonçant la fermeture de ces filières. Alors, pas question de cela, le chef de l'État retourne la polémique en lançant « Pouvez-vous étudier la philosophie ? Vous le pouvez, avec votre propre argent. » Et le ministre de l'Éducation, Abraham Weintraub, l'énonce clairement, il ne veut plus de ce qu'il appelle le marxisme culturel qui domine les universités. Ses partisans postent en ce moment ce genre de vidéo. C'est bizarre, non ? Ouais, c'est un peu étrange, ouais. Des étudiants, torse nu, imitant des chimpanzés dans une salle de cours. C'est un exercice d'anthropologie. Copieusement critiqué, hein. Faculté de drogués, de zombies socialistes, peut-on lire dans les commentaires. Le ministre de l'Éducation, lui, a bien l'intention d'imposer une logique gréco-romaine et des valeurs judéo-chrétiennes. Voilà ce qu'il dit. Alors, si cela ne va concerner que quelques milliers de jeunes, hein, moins d'1% des étudiants au Brésil sont inscrits en philosophie ou en sociologie. C'est le débat idéologique, hein, derrière qui est inquiétant. Un débat idéologique qui ne touche pas que le monde universitaire d'ailleurs. Une banque publique a licencié son directeur du marketing la semaine dernière à cause de cette publicité.
Faz carão, biquinho de vem cá me beijar, quebrada de pescoço pro lado, não, pro outro.
Alors là, on y voit des jeunes, des vieux, mais surtout des noirs, et puis un transsexuel. Bref, le Brésil dans toute sa diversité. Le président Bolsonaro a lui-même demandé d'arrêter la diffusion de ce spot de pub.
Allez, on reste de ce côté-ci de l'échiquier politique, mais pour une histoire d'amour maintenant.
Une histoire que nous révèle le très sérieux Corriere della Sera. Marion Maréchal Le Pen raconte dans une interview sa rencontre avec son fiancé Vincenzo Sofo, membre de la Ligue du Nord en Italie. On le connaît à travers son site Il Talebano. Des journaux People avaient déjà divulgué des photos volées du jeune couple en vacances. Mais aujourd'hui, dans le Corriere, c'est plus d'élections européennes et d'alliances des nationalismes dont il est question. Quand le journal demande à Marion Maréchal Le Pen comment ils se sont rencontrés, elle répond « Il y a 3 ans, en Italie, à l'occasion d'une conférence sur la souveraineté et l'Europe, organisée par Vincenzo. Parmi les invités, il y avait Salvini. » Et d'ajouter, le charme italien a fait le reste. Alors elle tresse ensuite les louanges de Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement, et condamne les propos du président Macron sur la lèpre populiste. Bien plus qu'une amourette, donc on l'a compris, c'est un mariage des extrêmes droites européennes dont on publie les bancs aujourd'hui.
Et sinon, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Et là, le conte ne se finit pas du tout comme ça pour les manchots empereurs de la colonie de Halle Bay. Vous vous souvenez peut-être, La Marche de l'Empereur, c'était ce film magnifique de Luc Jacquet, et là c'était la bande originale signée Émilie Simon. L'épopée de ces manchots en Antarctique pour donner la vie au milieu des glaces. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe écologique qui se déroule sous nos yeux. Les animaux n'ont pas réussi à élever de poussins. Depuis 3 ans, le sort s'acharne contre la 2e plus grande colonie au monde. 2016, une tempête éclate la banquise, bien avant le départ des oisillons tout juste nés. 2017, 2018, les éléments se déchaînent encore, tous les poussins quasiment meurent. Alors la transformation de la banquise, la répétition des tempêtes très violentes sont-elles dues au changement climatique ? Les scientifiques ne se prononcent pas. En revanche, ils ont un espoir que des manchots aient réussi à trouver de meilleurs lieux de reproduction dans une colonie voisine qui, elle, s'est agrandie.
C'est triste, dites-moi. Ah Amélie oui, Perrier, sous les radars, tous les jours dans un jour dans le monde. Merci Amélie.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Tunisie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir en Tunisie où depuis 2017 existe une loi pour le droit des femmes accompagnée d'un numéro vert national sanctionnant notamment les agents de police qui refusent d'enregistrer une plainte. Dans un pays où il est mal vu de dénoncer son père, son frère, son patron, son mari, c'était une avancée historique. Sauf que le texte, c'est une chose, l'application de la loi, c'est vraiment autre chose. Bonsoir Laura May Gaverio.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Nous sommes à Zarziz, c'est là que vous nous emmenez dans le sud-est tunisien, voir un projet pilote que vous nous faites découvrir grâce à Anissa, et on vous écoute.
La scène se déroule à Oumt Souk, le centre touristique de l'île de Djerba, une nuit de novembre. Une femme sort en pleurs du poste de police. Elle tient une petite fille d'un an et demi dans ses bras. Anissa a été violentée par son mari. Elle est choquée et doit se rendre à l'hôpital pour faire constater ses blessures par un gynécologue. Ce soir-là, je la fais monter dans mon taxi et j'apprends qu'elle n'a aucune famille dans la région. Elle ne sait pas vraiment quoi faire après, alors j'appelle la directrice du centre d'aide aux femmes de Zarziz à 40 minutes d'ici. Le lendemain, nous faisons la route ensemble et Anissa me raconte son calvaire.
Il ne sait pas comment boire.
Il ne sait pas comment boire. Depuis 7-8 mois. Avant, non.
Avant, non. Ses amis.
Ses amis, ils ne sont pas bien. Ils lui disent.
Il lui dit, tu pleures de ta femme. Hop.
Espace polyvalent Tidar pour l'appui aux femmes de la région de Médénine, inauguré en août 2017. Ici, elles peuvent venir chercher de l'aide lorsqu'elles sont victimes de violences et trouvent aussi un accompagnement dans l'autonomisation économique. Anissa raconte son histoire à Meriem et Olfa, les deux écoutantes qui vont se charger des premières orientations, psychologue, assistante sociale et conseil juridique.
Alors Manel, hier soir, j'ai fini par t'appeler un peu tard.
Oui.
J'ai rencontré cette femme, je t'ai dit, elle a besoin d'aide. Hein.
Oui.
Manel Mtimet, directrice du centre.
On a déjà réclamé la police, le bureau spécial à Zarziz. Eux ont eu contact avec le brigade de Hont Souk. Normalement, elle est arrêtée déjà son mari. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les DPE, les délégués de protection de l'enfance. Et on va sur les dossiers.
Les filles de Tidar coopèrent étroitement avec la police locale, une unité spéciale créée, comme le centre, dans la foulée de la loi organique 58 d'août 2017 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Victoire historique pour les progressistes, ce nouvel arsenal législatif garantit aux victimes l'accès aux droits dans un pays où, lorsqu'une femme accusait son agresseur, elle était renvoyée à ses devoirs d'épouse, de fille, de sœur, sous la pression sociale et familiale. Aujourd'hui, un policier n'a plus le droit de refuser d'enregistrer une plainte. Et pourtant, Anissa avait dû s'y reprendre à 10 fois avant de finalement convaincre les agents de sa ville.
On veut pas de scandale dans les familles, porter plainte contre son mari, c'est quand même osé.
Zakia Hamda, militante féministe et activiste politique de gauche.
La plupart des victimes sont mal reçues. Elle a intérêt à y aller de prime abord avec un avocat.
C'est pour cela que le centre Tidar de Zarziz fait office de projet pilote, créé par l'Association du développement local dans le but de faire connaître et mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la loi 58. Il est emblématique de la façon dont la société civile s'approprie les avancées démocratiques du droit pour entraîner le changement des mentalités. Quelques autres centres ont commencé d'égrener sur tout le territoire, un maillage s'appuyant sur le réseau féministe ancré de longue date en Tunisie.
Les mentalités évoluent tout doucement. Les féministes ont été diabolisées aussi bien par Ben Ali que par les islamistes. Donc il y a un déficit d'image. Mais en gros, les victimes, quand elles doivent se retourner, c'est souvent auprès de ce réseau-là.
En attendant l'égalité parfaite dans ce pays rescapé des printemps arabes en pleine transition, c'est pierre après pierre que se bâtit l'avenir des Tunisiennes. Au centre Tidar, toutes les femmes de Médénine trouvent une aide et parfois cela change des vies. Meriem et Olfa, les deux écoutantes salariées, sont bien placées pour le dire. Elles ont même trouvé dans cet engagement la voie de leur émancipation.
Elle a changé complètement, Maria.
C'est une expérience que
Je suis fière de moi que je travaille ici.
Don't look at your bed.
Chaque jour,
c'est des gens qui ont des idées ou une histoire qui va changer.
Et même si les hommes de leur propre famille ne comprennent pas ce qu'elles font pour gagner leur vie, elles savent que d'avoir réussi à coordonner les autorités et les services sociaux sur ces thématiques dans une région encore très conservatrice est totalement inédit.
Laura Maguerio pour le reportage. Merci beaucoup. Et ne bougez pas, ne changez rien. Holly Cook est sur France Inter. Milk on Honey, c'est le titre. Holly Cook sur France Inter. Milk and Honey, c'est pas une recette, c'est le titre. Hein.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Cyril Sauvageau ce soir. Cyril, c'est une première dans l'histoire du Japon. L'empereur Akihito s'apprête à abdiquer. Ça va se passer demain. Après 30 ans passés sur le trône, il passera le flambeau à son fils qui s'appelle Naruhito. Pour les Japonais, c'est une page qui se tourne et c'est même le début d'une nouvelle ère.
Et on connaît déjà le nom de cette nouvelle ère impériale. Ce sera l'ère Reiwa, un terme japonais qui désigne à la fois l'ordre et l'harmonie. Il aura fallu des mois de réflexion et de débats d'experts pour choisir cette appellation. Et le simple fait de la dévoiler au public, il y a quelques semaines, a été vécu comme un moment historique. Pourtant, cette abdication, elle n'a rien d'un bouleversement. C'est plutôt le changement dans la continuité. Le fils succède au père, selon un protocole réglementaire. réglée comme du papier à musique depuis des siècles. Il y a d'ailleurs quelque chose de fascinant à observer, le fonctionnement immuable de cette maison impériale. Même si l'empereur n'a plus le statut divin qu'il avait autrefois, c'est toujours un personnage à part, respecté, vénéré par l'immense majorité des Japonais. D'ailleurs, toute critique vis-à-vis de l'empereur reste extrêmement mal vue. Et malgré les bouleversements de la société japonaise, sa modernisation, la famille impériale, la plus ancienne lignée royale du monde, continue d'incarner la stabilité, les valeurs du Japon éternel, des valeurs jalousement gardées et portées en étendard par les nationalistes.
Mais pourtant, pendant ces 30 ans-là, Cyril, Akihito s'était forcé de faire évoluer le rôle de l'empereur.
Oui, une évolution à dose homéopathique, parce que le poids de l'histoire et des traditions demeure écrasant. D'abord, il faut savoir que la constitution japonaise interdit à l'empereur d'exprimer ses opinions politiques. Ça, c'est un héritage de la défaite du Japon en 45, quand il a fallu museler en quelque sorte l'empereur Hirohito, le punir d'avoir voulu conquérir l'Asie par la force et d'avoir conduit son pays à la ruine. Quand il succède à son père à la fin des années 1980, Akihito imprime peu à peu sa marque et il s'efforcera pendant tout son règne d'atténuer l'image inaccessible du souverain en se rapprochant du peuple avec son épouse Michiko, en sillonnant l'archipel, en se rendant auprès des victimes de catastrophes naturelles. On se souvient par exemple de ces images de l'empereur agenouillé auprès des sinistrés de Fukushima. Une façon d'humaniser la fonction, de se mettre à hauteur d'homme, même si tout cela reste excessivement cadré sous la surveillance de la toute-puissante agence de la maison impériale, une administration à part entière qui surveille, qui contrôle les moindres faits et gestes de l'empereur et de sa famille pour s'assurer du bon respect de l'étiquette.
Alors avec un tel carcan, le futur empereur Naruhito, est-ce qu'il peut aller plus loin et réussir réellement à moderniser cette fonction?
C'est tout l'enjeu de son règne à venir. Le 126e empereur du Japon, qui aura 60 ans l'année prochaine, a déjà annoncé son intention de donner une envergure internationale à l'institution. Son parcours, sa personnalité plaide en ce sens et témoigne d'une certaine ouverture sur le monde. Il a étudié l'histoire en Grande-Bretagne pendant 2 ans, on le dit très sensible aux questions climatiques, environnementales, et il a épousé une fille de diplomate, Masako Owada, ancienne d'Harvard, qui a renoncé à une carrière internationale pour rejoindre la famille impériale. Naruhito et Masako sont tous deux polyglottes, tout laisse donc à penser qu'ils voudront bien moderniser ce rôle d'empereur et de son épouse. Au-delà du protocole, c'est une question importante pour le Japon, à une époque où l'archipel cherche à rayonner davantage dans le monde sur fond de rivalité avec le géant chinois. Mais cette maison impériale devra tôt ou tard se réformer pour ne pas disparaître. Le grand drame du futur empereur, c'est qu'il n'a pas de fils, il n'a pas d'héritier pour lui succéder sur le trône. Au Japon, les filles, en effet, ne sont pas habilitées à devenir impératrices. Autant dire que le vrai changement d'époque n'est pas pour tout de suite.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. Et le Japon, on y reviendra justement d'ailleurs dans Un jour dans le monde. Demain, on vous racontera comment ça se passe là-bas, les dernières cérémonies, la grande cérémonie pour ce nouvel empereur. Et surtout comment les Japonais aujourd'hui le perçoivent, dans quelle ambiance tout cela va se passer. Ce sera avec Karine Poupée. Comment se passent non plus les fameux 10 jours de congé? Vous savez que Cyril, que les Japonais sont perdus parce qu'ils savent pas quoi faire de ces 10 jours.
C'est historique aussi.
Allez, merci beaucoup. On se retrouve demain.